agriculture biologique. Environnement, zéro déchet, développement durable. Vous souhaitez communiquer et partager vos actions, parler de vos projets sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel 106.3 FM.
Juste pour que ça dure.
Mon Bio Écomag vous informe sur différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire.
Juste pour que ça dure.
Contactez le 02 43 33 24 56, le 02 43 33 15 15,
juste pour que ça dure.
Écoutez Radio Alpes-Mancelles sur le 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe-Alpes-Mancelles. Consultez son site internet et rejoignez-nous sur la page Facebook de Radio Alpes-Mancelles.
À présent, nous recevons sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM Maude Cochonneau de la ferme viticole du cochon zébré située à Marçon qui vient nous parler de son exploitation ainsi que de ses produits qu'elle souhaite respectueuse de l'environnement. Madame Cochonneau, bonjour.
Bonjour.
Je vous invite à commencer notre échange en vous présentant.
Eh bien, donc je suis Maude, je suis agricultrice sur la commune de Marçon, où j'ai grandi, donc Marçon dans le sud-est de la Sarthe, et je m'occupe de la ferme du cochon zébré, et j'ai 32 ans.
La ferme du cochon zébré est née récemment, mais elle poursuit les traces d'une tradition agricole familiale, puisque la cave était celle de votre papa, si je ne me trompe pas, qu'il avait lui-même reçue de son père, et avant cela de son grand-oncle.
Oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. J'ai repris une tradition agricole familiale, même si je m'y prédestinais pas. Mais en tout cas, ma famille exploite des terres sur cette commune depuis très longtemps, oui.
Parlez-nous un petit peu de ce trésor familial. Est-ce qu'il était déjà tel qu'il est aujourd'hui ou vous avez, au fil des générations, finalement apporté des modifications ?
Eh bien, disons que à l'époque de mon grand-oncle a fait partie des personnes qui ont professionnalisé l'appellation Coteaux du Loir, donc c'est l'appellation viticole sur laquelle je suis. Ensuite, le patrimoine agricole de ma famille, en gros, c'est l'héritage des fermes diversifiées d'antan où on trouvait des céréales, un peu d'élevage, du vin, quelques fruitiers. Mes grands-parents avaient une ferme de ce type-là. Mon père s'est un peu spécialisé à l'époque sur les céréales et l'élevage de porc, que sur la fin de sa carrière, il ne faisait plus. Donc moi, j'ai récupéré les vignes dans un premier temps, puis aujourd'hui les céréales. On a aussi des surfaces boisées assez importantes. Donc finalement, je dirais que c'est une ferme qui reste traditionnelle avec différentes productions et j'y tiens beaucoup. Je trouve que c'est ce qui fait la beauté de nos campagnes ici, c'est qu'on a encore des productions diversifiées, donc des paysages diversifiés.
Donc une ferme en polyculture aujourd'hui.
C'est ça.
Aujourd'hui, qui produisez-vous ?
Alors j'y produis du vin en appellation Coteaux du Loir, donc on produit du blanc, du rouge, du blanc à base de chenin, du rouge principalement à base de notre cépage phare, le Pinot d'Onis. Je fais un rosé aussi cette année je sors mon premier rosé. Je fais également des jus de légumes, pour l'instant jus de betterave-pomme, jus de carotte-pomme, c'est vraiment des boissons, c'est pas des soupes, c'est des jus. Et je produis aussi des céréales, blé, orge principalement, mais aussi du quinoa, du lin, du tournesol cette année pour la première fois. Et tout ça en bio, la ferme est 100% en agriculture biologique.
Donc des produits que vous proposez à la vente, où est-il possible de se les procurer ?
Alors oui, les vins et les jus, je les vends direct à la cave. Certains céréales parfois, mais c'est plus anecdotique. Pour les céréales, je travaille avec une coopérative qui elle redistribue dans des points de vente que chacun connaît. Mais donc à la cave, je vends les vins et les jus le premier samedi de chaque mois, matin et après-midi. Les horaires sont marqués sur mon site internet. Après, je fournis aussi le magasin de producteurs. Je fournis et je participe à la vie du magasin de producteurs de Loire-en-Vallée, donc Ruillé-sur-Loire. Le magasin s'appelle Les Bio du Loir et donc avec mes collègues, on a créé ce lieu qui est ouvert tous les vendredis après-midi et au beau jour, le samedi matin aussi. C'est nous qui tenons le magasin et vous pouvez venir en direct à l'épicerie ou, on appelle ça l'épicerie, ou alors commander en avance sur local.bio en trouvant notre point de vente et venir retirer votre commande le vendredi après-midi. Et après, j'ai aussi des distributeurs sur Le Mans et Tours maximum. En fait, mon envie, c'est vraiment que mes produits que je fabrique en prenant un maximum de précautions pour l'environnement, j'ai pas envie de les envoyer trop loin parce que ça a un impact, le transport. Donc du coup, je vends Tours et Le Mans, jusqu'à Tours et Le Mans à peu près, au maximum. Bon, je suis pas non plus fermée, mais... Et donc il y a quelques cavistes, quelques restaurants qui les distribuent. Il y a le restaurant du Grand Lucé, le Lucé qui le distribue par exemple. Au Mans, il y a un caviste qui s'appelle Les Vins Vivants.
Donc un travail colossal que vous réalisez toute seule ou vous êtes accompagnée?
Ah, alors là, c'est dur de répondre à cette question. Je suis toute seule sur la ferme, ça c'est sûr. Ça, je peux vous le dire. Mais donc en effet, je participe à tout en fait. Je fais tout de A à Z. Et c'est ce que je trouve hyper passionnant dans ce métier-là. Par contre, on n'est jamais vraiment seul. En fait, on a quand même des fournisseurs, des partenaires. J'ai un prestataire quand même qui travaille pour moi dans les champs parce que je fais pas les travaux des champs entièrement. J'ai des collègues vignerons autour de moi avec qui on s'entraide. J'ai plein de choses. J'ai de la famille aussi qui m'encourage. Donc on n'est jamais vraiment seul en fait sur nos fermes. Et je trouve que ici en tout cas il y a une belle cohésion. Il y a un groupe aussi d'échange qui existe entre vignerons, mais ça existe aussi en grande culture avec des collègues qui sont également bio. Donc on n'est jamais vraiment tout seul. Et puis on a nos clients aussi qui viennent, qui nous encouragent. Donc je suis toute seule, mais je suis pas toute seule.
Au sein de la ferme du cochon zébré, vous avez à cœur de proposer une agriculture respectueuse de l'environnement. Vous venez de nous le dire. Donc, en ce sens, que faites-vous?
Énormément. Ça pourrait être une liste sans fin. Mais bon, déjà, j'ai fait le choix de pratiquer une agriculture biologique que je fais certifier. C'est pas seulement dans les termes. C'est aussi labellisé. Donc ça. Voilà, c'est la base. En gros, on n'utilise pas de produits de synthèse. Par contre, je fais aussi attention, à mes fournitures, par exemple. J'essaie de limiter, sur les bouteilles, prenons un exemple, j'ai décidé de travailler avec un système de consigne. Donc, je récupère mes bouteilles de vin et je les stocke vides, rincées, séchées, et je peux ensuite les envoyer dans une entreprise qui va me les désétiqueter, laver, repalettiser et réacheminer jusqu'à chez moi. Donc c'est du transport et c'est un coût écologique, bien sûr, le lavage, mais c'est bien moindre par rapport à la fonte et à la refabrication du verre. Ça, c'est une chose. Là, cette année, par exemple, j'ai décidé d'étiqueter des bouteilles et de pas tout mettre en carton, parce qu'en fait, je vends quand même aussi beaucoup à l'unité ou à 3 bouteilles. Donc, j'incite les gens à venir avec leur contenant pour ne pas toujours emmener un carton. Après, ça prend différentes formes, en fait. Le travail en bio, c'est aussi beaucoup de travail du sol, d'essayer d'activer la vie du sol pour... créer un cercle vertueux et ne pas avoir des plantes qui soient trop dépendantes d'apports extérieurs. Là, par rapport aux céréales, c'est toute une démarche parce que moi, j'ai vraiment appris sur le tas la culture des céréales. Et donc, en bio, il y a un gros enjeu sur la gestion de l'enherbement puisqu'on n'utilise bien sûr pas de désherbant. Donc, il faut gérer mécaniquement, mais aussi il y a tout un enjeu sur l'occupation du sol en fait par d'autres plantes, des plantes qu'on aurait choisies. Donc, tout ce qui est interculture ou alors même on sème une céréale et ensuite on resème une interculture un peu plus tard par-dessus qui va un peu tapisser le sol sans faire concurrence à la céréale, mais qui va permettre d'éviter les mauvaises herbes. Tout ça, c'est énormément de... On se rend peut-être pas compte quand on n'est pas dans le milieu, mais le monde agricole n'est pas du tout figé. Il y a une recherche sans cesse, il y a énormément de tests, de recherche, mais très très pratico-pratique, quoi, d'agriculteurs qui expérimentent tous les jours des nouvelles techniques bah voilà, produire mieux, se passer des produits. On a même, je pense, même les gens conventionnels ont envie de se passer de certains produits. C'est pas forcément un plaisir de les utiliser. Et moi, sur la ferme, ce que j'aimerais, c'est vraiment devenir autonome aussi sur le fait d'amender nos sols. Donc en bio, on peut bien sûr amender nos sols avec des fumiers, des composts, mais c'est des matières qui déjà que j'importe pour l'instant sur la ferme parce que j'ai pas d'élevage et qui coûtent cher, qui coûtent de plus en plus cher, comme tout ça a beaucoup augmenté et notamment du fait de la grippe aviaire, parce que c'est des composts qui sont souvent fabriqués à base de fumier de volaille. Or, il y a beaucoup d'élevages qui ont été fermés, de bâtiments qui ont été fermés. Donc, il y a vraiment une tension sur ce marché-là du compost, des amendements. Et en fait, on peut s'autonomiser là-dessus, notamment avec des intercultures, faire pousser des plantes qu'on va ensuite tout simplement broyer, réintroduire dans le sol et qui vont apporter une richesse. Et tout ça, c'est vraiment une réflexion au quotidien. C'est à la fois passionnant et hyper prenant de faire tout ça parce que, en fait, on pourrait avoir le cerveau occupé à 120% tellement il y a plein de choses à essayer, à mettre en place. Et puis, bah, dans un champ, on a une chance par an, quoi. Donc, ça prend du temps de trouver aussi les bonnes formules parce que faut attendre un an de plus. Si on n'est pas content de ce qu'on a fait une année, faut attendre un an de plus pour réexpérimenter, quoi. Mais c'est super.
Vous avez pris le parti de proposer, vous nous l'avez dit, vos produits, notamment la production des bouteilles consignées sans consigne. Alors parlez-nous un petit peu de ce concept qui s'est malheureusement perdu depuis quelques années en France, puisque c'est encore le cas dans des pays étrangers comme l'Allemagne, mais qu'on a perdu en France.
Oui, oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait une année d'études en Finlande et là-bas, tout est consigné, bouteille en verre, canette en aluminium. Donc, c'était vraiment le rituel, quoi. On arrive au supermarché. Alors, eux, c'est vraiment à l'entrée des supermarchés. On arrive avec tous ces contenants vides et puis hop, 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 on rentre tout ça dans les petites machines qui nous sortent des tickets. Et ensuite, on passe ces tickets en caisse pour avoir la réduction de la consigne, quoi. Donc chez nous, ben moi j'ai bien sûr pas connu la consigne, hein, ça s'est arrêté depuis longtemps. C'était bien sûr des bouteilles plus épaisses qu'on réutilisait. On avait l'habitude, je crois qu'il y avait des étoiles sur certaines bouteilles, c'est ça qui disait qu'elles étaient consignées. Enfin bon, c'était vraiment un système qui fonctionnait bien. Et puis les contraintes de transport, le développement, l'industrialisation, enfin plein de choses ont fait que on s'est mis à faire des bouteilles plus légères. Pas lavable, et puis voilà, on les casse, on les refabrique, on a bien compris comment faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, y a quand même une réflexion à avoir sur le coût de cette refabrication. C'est énergétiquement, c'est énorme. Pour recycler du verre, il faut le fondre à 1500 degrés pendant 24 heures. Donc bon, bah c'est pas banal. Et puis par exemple, en Pays de la Loire, il n'y a pas de verrier. Je crois, j'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois que dans notre région, il n'y a pas de verrier qui fabrique des bouteilles. Donc quand on achète des palettes de bouteilles, déjà elles viennent d'ailleurs qu'en région Pays de la Loire. Du coup, parce que aussi j'ai eu vent de Bout à Bout, donc de la création de cette association qui s'appelle Bout à Bout, qui propose le lavage, la collecte et le lavage des bouteilles. Des producteurs vin, bière, jus, maintenant ils élargissent beaucoup leur gamme. J'ai eu vent de leur action et donc je me suis dit, ben banco quoi. J'ai regardé un peu les coûts et concrètement, c'est pas exorbitant pour moi de collecter mes bouteilles et de les faire laver et je trouve ça vraiment beaucoup plus vertueux.
Aujourd'hui, voilà. Le client il est plutôt réceptif à ce modèle de consigne ?
Oui, ça va. Et puis je fais de la vente directe, donc je peux, voilà, j'en parle. Les gens sont plutôt contents de participer à ça, sachant qu'en plus, pour l'instant, moi, j'ai pas monétarisé la consigne. C'est vraiment à la bonne volonté de chacun, et c'est juste pour le plaisir de participer à ce système-là que les gens les ramènent. Et ça fonctionne plutôt. Après, ça va fonctionner de mieux en mieux parce que Bout à Bout. Investi là la Sarthe, ils ont commencé en fait en Loire-Atlantique, donc par chez eux c'est plutôt bien mis en place, mais là en Sarthe, Mayenne, et ils investissent le centre, je crois, ils vont commencer à mettre en place ce qu'ils ont fait plus à l'ouest, c'est-à-dire vraiment des lieux. Par exemple, quelqu'un qui achète une bouteille chez moi pourra ramener sa bouteille à un bar, enfin, ou à un caviste à Tours plutôt, qui ferait partie de ce réseau-là Bout à Bout, parce qu'on a la petite pastille Bout à Bout. Ma bouteille pourra être apportée ailleurs et fera partie, réintégrera le circuit de collecte automatique de Bout à Bout. Donc ça va vraiment accélérer les choses. Là, pour l'instant, moi, je récolte chez moi les bouteilles et puis au magasin de producteurs à Rueil-sur-Loire. C'est pas anecdotique. J'ai quand même 10%, je crois, de ma production qui me revient. Mais voilà, faut vraiment que ça s'accélère et qu'on puisse remettre un maximum de bouteilles dans le circuit. D'autant qu'aujourd'hui, ça peut venir en complémentarité des verriers. On aura toujours besoin de bouteilles neuves, ça, il n'y a pas de doute. Mais par contre, là, quand je vois la pénurie de bouteilles et les difficultés qu'on a pour s'approvisionner en bouteilles neuves, ça peut vraiment être un super système complémentaire.
Aujourd'hui, vous l'utilisez pour vos bouteilles de vin, mais également pour vos bouteilles de jus.
Alors oui, je l'utilise pour mes bouteilles de jus. C'est un peu plus spécifique, les bouteilles de jus. C'est tout bête, en fait, cette bouteille. Donc ça s'appelle, le nom de la bouteille, c'est 1 litre fraîcheur. C'est les bouteilles type lait, en fait. Bouteille avec un goulot assez large. Et ben cette bouteille, elle a existé, bien sûr, puisque c'était les bouteilles de lait. Elle a existé dans un verre épais qui pouvait subir les lavages répétés. Et puis, ben, on a arrêté de la fabriquer. Les verriers ont un peu perdu le moule, quoi, on va dire. Et donc là, il leur a fallu... moi, je crois que ça fait quasiment 2 ans que Bout à Bout m'en parle. Il aura fallu quasiment 2 ans pour recréer ce modèle lavable, plus solide, etc. Et c'est pas encore tout à fait dans les tuyaux. Donc moi, je les récupère, je les fais laver. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai une perte sur ces lavages-là qui est à ma charge, on va dire. Alors que quand la bouteille épaisse existera, elle pourra vraiment entrer dans le réseau Bout à Bout. Et puis, on aura beaucoup moins de pertes et beaucoup moins de casse au lavage.
Oui, là, c'est encore un versus prototype, finalement.
Oui, pour l'instant, c'est moi, les bouteilles que j'ai de jus, là, aujourd'hui, elles sont pas calibrées vraiment pour le lavage, contrairement à mes bouteilles de vin qui, elles sont comme il faut. Parce qu'il faut, il faut un verre un peu plus épais, il faut ensuite, nous, on fait valider nos étiquettes qui doivent être dans un papier et une colle spécifique. C'est pas plus cher. Il faut que les solvants puissent enlever ça facilement. Donc voilà, il y a deux trois petites choses à paramétrer, mais c'est vraiment pas grand chose par rapport aux gains environnemental, je trouve qu'on a en l'occurrence. Moi, ça me coûte aujourd'hui parce que le système est pas encore bien développé dans mon coin de France, mais aujourd'hui ça me coûte, je crois que j'ai fait le calcul il y a pas longtemps, 10 ou 11 centimes de plus par bouteille. En gros, ça me coûterait comme si la bouteille me coûtait à re-remplir avec un deuxième millésime me coûtait 11 centimes de plus qu'une bouteille neuve. Et ben je trouve que c'est rien du tout par rapport au gain. Ouais, voilà. Et cet impact-là, faut se dire, mais ça, faut raisonner là-dessus, comme ça, sur tout. C'est-à-dire que ce petit 11 centimes que je mets sur mes bouteilles, eh ben, je le regagne d'une manière ou d'une autre. C'est aussi, des gaz à effet de serre qui sont pas émis et qui vont pas venir perturber mes cultures plus tard. Enfin, c'est un cycle, quoi. C'est vraiment un cycle vertueux. Et moi, j'ai besoin dans mon activité que le climat ne se complique pas de trop. C'est déjà compliqué de travailler avec le climat qu'on a aujourd'hui et avec ses caprices. Mais j'ai vraiment besoin, voilà, qu'on préserve ça. Donc, 11 centimes, ça me paraît rien par rapport à ce que ça peut m'amener par ailleurs, quoi. Mais ça, c'est dur à raisonner parce qu'on ne le calcule pas. On ne calcule pas le gain. Enfin, c'est pas quelque chose de chiffrable, donc c'est pas trop comme ça que raisonnent certains.
On y vient. Les esprits s'ouvrent, on va dire. Donc on y
oui,
vient.
Oui, oui, oui. Remember you and what we used to say. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no. Listen to the sound that he born. A rock'em'roll is a freedom fighter. He's handling his choice, and I know that. The dear rock'em'roll is a wannabe friend. What you see is what you really did in the end. But what you're gonna do, I don't know. A dear rock'em'roll is surely not for the dark. See, it's the wisdom of not to fool around. But why don't you be good and see on the ground? Yes. You never had it easy, I know. But I still remember you and what we used to have. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I will never forget. Yeah, yeah. So, oh, boo, boo, yeah. Oh, boo, boo, yeah. Sees what you really did in the end. But what you're gonna do, I don't know. Your dear rock'em'roll is surely not for the down. See, it's the wisdom of not to fool around. But why don't you be good and see on the ground?
Le printemps arrive, mais et même bien là maintenant. Je suppose que le travail va s'accélérer. Alors, quels sont vos projets pour cette année 2023 ?
En effet, je vous confirme que les choses s'accélèrent là. J'adore ce sentiment du printemps là. À la fois, on est heureux de. Enfin, je sais pas, le corps se remet un peu en mouvement. On est heureux de voir le printemps arriver. Et en même temps, il y a une forme d'urgence qui arrive direct en se disant, oulala, la liste des choses à faire s'allonge. mais bon, c'est top. Et alors les projets, bah, sur les cultures, rien de vraiment nouveau sous le soleil. Je fais des tests d'interculture un peu différents, mais voilà, il n'y a pas de grande nouveauté. Il y a le tournesol qui est nouveau cette année, j'en ai jamais fait. Donc on va tester ça. D'un point de vue vigne, j'ai un rosé qui sort, un rosé 2022 qui sort au printemps, ça c'est tout nouveau. Après, sur cette année, sur les vignes, j'agrandis un peu le vignoble. J'ai récupéré une superbe parcelle d'un collègue qui lève un peu le pied. Et donc, bah c'est génial. C'est la petite nouvelle. Et on a fini de la tailler la semaine dernière. Elle est très belle. Après, à la ferme, j'ouvre toujours donc le premier samedi de chaque mois. Ça ne change pas. Le 3 juin... C'est un premier samedi du mois et je participe à une opération qui s'appelle le Printemps Bio. Donc c'est une grande opération nationale où les fermes, les cantines, les magasins, tous les opérateurs peuvent proposer un événement pour promouvoir la bio auprès du public. En l'occurrence, sur la ferme, ce sera une ouverture un peu spéciale. Il y aura une petite randonnée, une conteuse, des peintures, des petites dégustations, enfin voilà, tout un joli programme qui sera consultable notamment sur mon site internet très bientôt. Puis voilà, après, pas de projet particulier, je continue comme je suis lancée, ma petite ferme que j'appelle ma petite ferme viticole au féminin continue son petit chemin, la diversité des productions, un nouveau jus de légumes va arriver à l'automne et puis je continue à travailler comme j'aime bien le faire au... Je sais pas ce qui me guide plus, ce qui m'importe beaucoup. Et là, en printemps, ça va juste être une confirmation. Comme chaque printemps, c'est la beauté du lieu dans lequel je travaille, la vallée de l'Adème, la vallée du Loir. C'est vraiment un lieu que j'affectionne énormément. Et je trouve que de travailler avec cette intuition de qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui nous fait du bien. Bah, en fait, souvent, on fait les bons choix et on va vers les bons projets. Donc, je continue comme ça. Travailler avec la beauté des lieux, des produits, la beauté des mots aussi, je trouve ça important, des échanges, des rencontres, bref, voilà.
D'un point de vue pratique, je vous invite à nous donner vos contacts pour nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur votre ferme et vos produits, avec peut-être un dernier mot à leur attention.
Bah, je les invite à venir, en tout cas, venir découvrir la cave, la ferme, venir échanger. Voilà, je consacre pas forcément beaucoup de temps, c'est le premier samedi de chaque mois, mais par contre, je suis là et je trouve ça hyper important d'échanger. Donc, pour les infos pratiques, je vais être assez simple. Le mieux, c'est de consulter le site internet lecochonzébré.fr. Sans accent, donc ça fait lecochonzèbre.fr. Voilà, il y a toutes les informations dessus, les actualités, les horaires d'ouverture, mon numéro de téléphone, tout est dessus, mon adresse mail, donc c'est plus rapide. Et puis voilà, venez, là, c'est pas un poisson d'avril, la prochaine ouverture, c'est le 1er avril. Venez, avec un peu de chance, j'aurai cuisiné un truc au chocolat, ça c'est ma petite passion. Mais voilà, venez à la rencontre de ma ferme, mais aussi de n'importe quelle ferme, en fait. Prenez le temps d'aller voir les producteurs, ils sont hyper ouverts aux échanges. D'ailleurs, j'en profite pour parler du fait que on organise aussi avec le magasin de producteurs un événement pour le printemps bio où on fera en sorte d'être un maximum de producteurs présents et disponibles pour parler, justement, échanger avec vous. Et là, je suis en train de me dire que j'en parle, mais que j'ai pas la date en tête. c'est un peu bête.
Ça sera peut-être l'occasion d'en parler lors d'une prochaine interview.
Oui, carrément. Carrément. Ouais, j'ai pas la date là.
Bah, Madame Cochonneau, je vous remercie pour votre participation sur notre antenne et je vous souhaite une agréable journée.
Merci beaucoup de m'avoir invitée et à une prochaine. Bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come 'cause you need a bath and your grandpa Jimmy is still gonna die. Now there's Buffalo Jim and Buffalo Jim, there's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette, and there's Buffalo Piss, and it's all kinda wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose, our roads lead to Rome with the buffalo.
Do what you do. If you remember your own.